Radio Okapi.
Au sommaire ce soir, Ituri, 18 morts dont 3 miliciens, 7 personnes kidnappées et plusieurs autres blessés. C'est le nouveau bilan des attaques de Codeco contre la milice Zaïre samedi et dimanche dans les localités de Loga et de Mbidjo dans les territoires de Djougou. Le Conseil supérieur de la magistrature interpellé pour être plus regardant vis-à-vis des diverses déviations dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a relevé hier samedi lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies à Congrès. L'invité de ce journal est le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Louboya, fait le point sur les opérations contre les ADF et parle des dispositions prises pour rétablir le calme et promouvoir la cohabitation pacifique dans la chefferie des Baboa Bakoui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Ituri, 18 morts, dont 3 miliciens, 7 personnes kidnappées et plusieurs autres blessées. C'est le nouveau bilan des attaques de Codeco samedi et dimanche dans les localités de Loga et de Mbidjo dans les territoires de Djougou. Des sources de sécurité signalent d'importants dégâts matériels suite au pillage et incendie des maisons et boutiques. Des combats ce dimanche entre les miliciens de la Codeco et de Zaïre vers Mbidjo, affirment des sources concordantes. Des détails avec Isaac Remouyopi.
La situation sécuritaire s'est détériorée depuis samedi matin dans certains coins du territoire de Djougou. À la base, le meurtre du directeur d'une école de Loga par des présumés miliciens des Zaïre, ce qui a excité la colère des miliciens dont la victime est originaire. En représailles, ces hommes armés ont barricadé les tronçons Katoto Largo. 10 motards et leurs clients qui étaient de passage sur cet axe ont été abattus par ces groupes armés. 3 autres ont été blessés, dont l'un est mort de ses blessures. Ces miliciens de la Côte compris en otage 7 autres personnes et emporté 4 motos des victimes. Un véhicule d'une ONG internationale a été également intercepté par ces miliciens à Loga. Ces derniers ont menacé de mort les staffs avant de les dépouiller de leurs biens, téléphone, argent, sacoche. Ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des FARDC, mais le véhicule a été endommagé. 7 personnes ont été également tuées et 3 autres blessées samedi matin par Codeco au centre commercial de Mbidjo dans les territoires de Djougou. Ces miliciens sont revenus encore dimanche matin à Mbidjo et des combats se poursuivaient encore dans la soirée de dimanche entre les groupes armés Codeco et Zaïre. Des sources locales plaident pour le déploiement des FARDC dans cette zone qui est contrôlée par ces milices. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, en bref, la situation est préoccupante ce week-end dans la région de Bouiza, un groupement de Bichoucha, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, limitrophe avec le territoire de Masisi. Plusieurs sources administratives et coutumières affirment l'arrivée ce dimanche matin d'une délégation du M23 à Kabarozi, dans la localité de Bouiza, où elle a tenu un rassemblement en présence d'une poignée de la population. La localité de Bouiza est une partie du parc national des Virunga, transformé en pâturage à l'époque du RC de Goma, mais aussi l'ancien Kijé du CNDP de Laurent Kunda. Dans cette même localité, les FARDC et les M23 tiennent des positions en face et à moins de 5 km, indiquent des sources locales. Nord Kivu encore, le système de santé fait actuellement face à un défi majeur, notamment avec l'augmentation des cas de choléra en territoire de Nyiragongo, qui héberge plus de 100 000 personnes déplacées de guerre. La division provinciale de la santé, qui coordonne la réponse contre cette maladie à Kanyaruchinya, évoque parmi les causes une faible couverture en eau potable et de mauvaises conditions hygiéniques accentuées par le manque de latrines pour les déplacer. Le point dans ce reportage de Sifa Maguru.
L'alerte a été donnée vendredi dernier par MSF RDC qui appuie l'accès aux soins de santé aux déplacés dans la zone de santé de Nyiragongo. D'après cette ONG humanitaire, il a été constaté une augmentation rapide des cas de choléra depuis le 26 novembre dernier. Abdou Moutsengesi, coordonnateur du projet MSF Goma, explique.
Depuis le 26 novembre jusqu'à le 8 décembre, nous avons pu soigner 309 patients qui souffrent de choléra. Nous avons demandé plus de 20 nouveaux cas admis au niveau de cet essai par jour. Les grands défis que nous observons, c'est l'insuffisance de l'eau auprès des déplacés et donc de la latrines au niveau des sites déplacés.
Le chef de division de la santé au Nord Kivu, qui coordonne l'intervention sanitaire à Kanyaruchinya, confirme que que les besoins en eau est couvert seulement à 10% dans les territoires, alors que les conditions hygiéniques ainsi que la promiscuité des déplacés posent un réel problème. Docteur Janvier Koubouya ajoute qu'avec ses partenaires MSF et la Croix-Rouge, ils organisent une prise en charge des cas enregistrés. Avec l'OMS, ils sont en train de former des relais communautaires pour renforcer la surveillance communautaire et la sensibilisation de la population. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Je le disais en titre, le Conseil supérieur de la magistrature interpellé pour être plus regardant vis-à-vis des diverses déviations manifestes dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a relevé hier samedi à Kinshasa lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président de la République a par ailleurs invité les parlementaires et le gouvernement à penser à améliorer les conditions de travail des magistrats, spécifiquement leur rémunération. Il encourage en plus la formation continue et la spécialisation sont les magistrats. Billy Ivan Lutumba nous propose cet extrait.
Il est donc important que le Conseil supérieur de la magistrature veille à une répartition équilibrée lors des affectations des magistrats, en évitant la politique actuelle visant à concentrer certains magistrats dans les ressorts des villes au détriment des milieux ruraux. C'est aussi une question de justice et d'équité dans la gestion de la carrière. En outre, un accent particulier doit être mis sur les conditions de travail, dont les rémunérations des magistrats, afin de réussir cette réforme. J'invite donc l'Assemblée nationale et le Sénat à y veiller dans le cadre du vote de la loi des finances. Quant à la qualité des décisions de justice, cause de l'érosion et de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice, et d'autre part sur l'observance rigoureuse des critères légaux dans le choix des animateurs de la justice. Comme j'avais dit autrefois, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Une fois encore et comme toujours, le Conseil supérieur de la magistrature est mis face à ses responsabilités devant la nation.
Sous un autre chapitre, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu dénonce ce qu'il qualifie du désordre et de la mégestion qui règne dans cette province qui, d'après lui, sont orchestrées par le gouvernement provincial dirigé par Théon Gwabidje Kassi. Il a dit vendredi dernier à Kinshasa lors d'un point de presse qu'il a tenu au nom d'une délégation de députés provinciaux qui séjournent dans la capitale, tout en dressant un tableau sombre qui caractérise quasiment tous les secteurs de la vie dans la dite province. Toujours selon lui, Amani Kamanda-Jack appelle à l'implication des autorités compétentes pour dénouer cette crise en faisant respecter la loi, car selon lui, le gouverneur actuel a été déchu depuis les mois passés. Ces propos ont été recueillis par Grace Hamzati.
Sur le plan sécuritaire, les assassinats ciblés, des corps sans vie, braquages en pleine journée, pillages, vols à main armée, viols, sont devenus le pain quotidien des habitants de la province dite Kivu. Sur le plan politique, la province Sud Kivu connaît une intolérance politique lui imposée par M. Théon Gwabidje Kassi. Sur le plan financier, la gestion de M. Théon Gwabidje Kassi s'est caractérisée par le détournement et la dilapidation des deniers publics. En parlant du détournement, plusieurs rapports et même de l'Inspection générale des finances ont attesté les vols et la soustraction de fonds publics à province, sans en fournir la moindre justification. Sur le plan infrastructure, aujourd'hui la province Sud Kivu ne dispose d'aucune infrastructure viable. Aucun territoire de la province n'est aujourd'hui relié au chef-lieu de la province. Les opérateurs économiques sont soumis à des paiements de taxes et impôts sans contrepartie.
En réaction, le gouvernement provincial du Sud Kivu parle d'un acharnement contre le gouverneur de province par les députés motionnaires. Le ministre provincial des médias et porte-parole du gouvernement indique que ses députés séjournent à Kinshasa pour chercher comment déstabiliser la province. Il les appelle au respect de l'instruction du ministre de l'Intérieur interdisant toute activité parlementaire ou politique visant à troubler l'ordre dans la province. Jérémy Bassimane Ziroumana, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, a été joint par Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Nous l'avons dénoncé depuis le 21 novembre. Tous les actes qui ont été posés par les députés étaient entachés de plusieurs irrégularités. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais présenté aucun acte attestant la déchéance du gouvernement provincial. Aucune notification de déchéance. Aucun PV de la plénière de ces jours. Aucune liste de présence indiqua le quorum des décisions, le quorum des sièges, mais encore la majorité absolue. C'est un acharnement contre les gouverneurs. Et depuis que le gouverneur Tongo Abije Kassi a adhéré à l'UDPS, parti cher au chef de l'État, ces derniers se trouvent dans l'incapacité, impossibilité de réaliser leur messe noire au sud Kivu. Ces députés motionnaires étant instrumentalisés, ils ont voulu aller à Kinshasa pour tromper l'opinion. Nous disons c'est un événement. Le gouverneur Tongo Abije Kassi poursuit avec les actions de développement pour l'intérêt de la population.
Dans la province du Maniema, on signale une incompréhension entre la communauté du village Kabakaba, située à 15 km du chef-lieu du territoire de Lubutu, et la société minière de Lubutu, Somil. Installée depuis 2012 dans cette partie de ce territoire, c'est le vendredi dernier que cette société a voulu procéder au bornage de son espace, chose que la population n'a pas digérée. Selon l'avocat conseil de la communauté, face à cette résistance, les éléments de l'ordre ont fait recours à l'usage des balles réelles, ce qui a aussi créé une panique généralisée dans la zone. Maître Mohamed Soukaï plaide pour l'intervention urgente des autorités avant que cette situation ne dégénère. Il a été joint par Florence Kizalunga.
Cette société est installée dans cette contrée d'il y a plus de 10 ans en exploitant sous semi-industriel de l'or sans qu'un cahier de charges soit signé avec la communauté locale comme l'exige le code minier. Hier, dans ce village de Kabakaba, sous réquisition de responsables de la société minière de Lubutu Somil, militaires et policiers ont envahi le village pour appuyer les services techniques qui se devaient aller borner par la force les carrés miniers prétendu. Et ils ont trouvé sur leur chemin certainement cette population qui ne pouvait que obstruer la route à cette démarche, d'autant donné que jusqu'à ce jour, aucun cahier de charges n'a jamais été signé avec cette société-là. Pour prendre en compte les revendications des autochtones, comme l'exige la loi de la République, il y a eu crépitement à balles réelles dans cette cité. Au moment où je vous parle, la population du village de Kabakaba se trouve dans les forêts, dans le village voisin, pour trouver la vie sauve. Le service technique des mines qui a émis un avis technique par une note adressée à l'autorité provinciale qui a suggéré à ce que cette société, ses activités soient suspendues. On observe le silence de la part de l'autorité provinciale.
Contactée, la société civile locale confirme cette nouvelle, mais les responsables de la société incriminée n'ont pas réagi à nos sollicitations téléphoniques. Hausse des prix du maïs et du manioc sur les marchés de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province d'Ikwilou. À titre illustratif, un sac de maïs est passé de 85 000 à 165 000 francs congolais. Certains vendeurs attribuent cette situation à la rareté créée par la paralysie des activités champêtres au plateau de Bateke, dans les territoires de Kwamout, à la suite de l'insécurité. Les agriculteurs et les commerçants n'ont plus accès à cette partie de la province du Maïndombé qui ravitaille en grande partie la ville de Bandundu en ses produits. Ils demandent aux autorités compétentes de pouvoir mettre fin à cette insécurité à Kwamout. Le point avec Irène Boma.
Devenus très rares, ces aliments de base connaissent à ce jour une hausse vertigineuse des prix dans presque tous les points de vente de la ville de Bandundu, en l'occurrence au port de Kankoreman et au marché Office. Pour la faible quantité disponible, une mesure écolo jaune de maïs est passée de 1200 à 2000 francs congolais. Un gros sac appelé Mbata qui coûtait 85 000 se négocie aujourd'hui à 165 000 francs congolais. Un sac Mbadi de manioc est passé de 35 à 55 000 francs. Certains vendeurs de ces denrées alimentaires rencontrés rapportent que la ville de Bandundu est ravitaillée en grande partie par les territoires de Kwamout au Maïndombé. Cependant ici, tous les agriculteurs ont vidé les lieux de fouilles à l'insécurité. Voilà ce qui cause cette rareté. Ce jour-ci, les maïs et les maniocs sont devenus rares parce que d'habitude, nous les achetons à Kwamout. Mais à la suite de ces désordres, nous nous rendons maintenant à Kibambili où ça coûte actuellement cher. Voilà pourquoi un sac revient à 165 000 francs. Les agriculteurs du plateau de Bateke ont fui les atrocités. Que les autorités mettent fin à ces désordres. Précisons que la ville de Bandundu reçoit aussi des produits en provenance du territoire de Bagata, où une partie de la population s'est également déplacée. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, à l'occasion de la célébration hier samedi 10 décembre de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'association La Cour des Grands a fait un important don de nourriture à la prison centrale de Kalemie. Pour l'un des membres de cette ONG qui regroupe, entre autres, quelques responsables de la ville de Kalemie. Les prisonniers jouissent aussi du droit à la vie et à la santé qui sont parmi les droits fondamentaux de l'homme. Jonathan Kadima est au micro de Paul Emunanga.
La Déclaration universelle des droits de l'homme a été publiée pour la première fois le 10 décembre 1948. Et nous avons voulu capitaliser ces jours pour venir partager les peu que nous avons avec les détenus de la prison centrale de Kalemie. Nous savons que parmi les droits de l'homme, il y a les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et les plus grands droits économiques, c'est les droits à la santé. Voilà pourquoi la Cour des Grands a pensé venir contribuer à la santé des détenus en apportant ces peu de nourriture que vous voyez ici. Nous avons amené des farines, des maïs, des haricots. Nous avons apporté quelques savons, l'huile de palme et l'huile végétale. Il y a quelques habits et chaussures que nous avons voulu partager avec les détenus de la prison centrale de Kalemie. Nous savons que ceci ne représente pas grand-chose vu le nombre de détenus que vous avez dans cette prison. Mais nous ne pouvions pas aussi croiser les bras pour dire que ce que nous avons ne suffira pas. Nous pensons que ceci pourra aider.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le pays commémore ce dimanche 11 décembre le 70e anniversaire de son accession à l'indépendance. En lieu et place d'un discours, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un petit message selon ses propres propos à ses compatriotes. Selon le chef de l'État burkinabé, le pays n'est pas encore indépendant car les terres sont toujours occupées et le combat pour l'indépendance totale du Burkina Faso passera par les armes et aussi par un changement de comportement, a dit le capitaine Ibrahim Traoré.
L'invité.
L'invité de ce journal est le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, fait le point sur les opérations contre les ADF et parle des dispositions prises pour rétablir le calme et promouvoir la cohabitation pacifique dans la chefferie de Baboa Bakoué. Il s'entretient avec Isaac Remouyopi.
Le gouverneur de l'Ituri, par rapport à la tension observée à la périphérie de la ville de Bounia depuis le lundi, le député national Gracien Iratian dénonce la passivité du gouvernement pour protéger la population en fuite. Que répondez-vous à ces allégations?
Nous vivons une accalmie, ça fait 5 à 6 mois. Avez-vous entendu parler des tueries et tout? Et vous savez qu'est-ce qui a opposé les populations la dernière fois? Une fosse sceptique qui a opposé les populations. Et vous savez très bien que j'ai déployé les gens là-bas. Le commandant en région est resté, il a passé la nuit là-bas. Si vous suivez dans les réseaux, il y a des gens qui s'amusent à vouloir faire peur aux autres. Hier et avant-hier, il y a eu beaucoup de messages dans les réseaux. Les gens se sont transférés des messages pour manipuler des rumeurs. Ce sont des choses qui ont été faites à dessein. Mais Dieu merci, heureusement, ils ont vu que nous sommes présents. Nous sommes présents et nous avons dit à toutes les communautés, peuvent bien manipuler, mais ils doivent savoir qu'à la moindre incartade, nous allons utiliser la force. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le dialogue que les gens doivent continuer à s'amuser. Vous voyez une fosse sceptique qui commence à opposer les gens.
Vous avez accueilli, j'ai dit, les leaders des groupes armés FPIC, FRPI et CODECO qui sont revenus de Nairobi. La population veut savoir est-ce qu'il y aura effectivement une paix durable à Ituri. Qu'est-ce qui va suivre concrètement après Nairobi 3.
En tout cas, je tiens d'abord à féliciter tous ceux-là qui ont participé à ce dialogue-là. Les gens pensaient, n'est-ce pas, monter les enchères ici pour que Nairobi s'arrête et que tout s'arrête. Mais les gens ont tenu bon. Il y a eu ce dialogue et les gens se sont engagés. Et j'ai eu un seul message, j'ai dit, voilà, nous avons fait un pas en avant, on ne doit plus reculer. Ils doivent descendre sur terrain, parler avec leur communauté, parler aussi avec les populations et les communautés, et parler aussi avec leurs membres de groupes armés là-bas pour les sensibiliser, les mobiliser, pour leur dire que voilà, nous nous sommes engagés, on ne peut plus utiliser la violence et que s'il y a des problèmes qui reviennent vers moi et nous allons essayer de les résoudre. Vraiment, félicitations pour tous ceux-là qui ont été là-bas, félicitations pour toutes les communautés qui étaient là. Les gens pensaient que l'Ituri ne va pas refuse d'aller vers la paix, mais maintenant tout le monde a vu que la population veut s'engager et la population a poussé tous ces gens-là parce qu'il y a d'autres qui étaient en train de traîner les pieds. Mais la population les a poussés. La population a dit, niet, vous allez à Nairobi. Et ils sont allés à Nairobi. Pour ceux qui ne sont pas partis, bon, on va voir, peut-être le groupe, il y a un seul groupe qui n'est pas parti, mais je suis sûr qu'ils ont vu.
Ces leaders des groupes armés ont exprimé leur inquiétude par rapport au groupe d'autodéfense Zaïre qui n'a pas encore adhéré à ces processus. Est-ce qu'il y a des démarches pour l'intégration des Zaïre dans ces processus?
Est-ce que vous savez savez, il y a des gens qui ont appelé directement à Nairobi pour dire, ah non, voilà, nous allons venir à Nairobi avec des généraux de Zaïre ou je sais pas, des colonels pour aller directement à Nairobi. On comprend maintenant que, bon, voilà, c'est vraiment de la manipulation. On ne veut pas montrer ce qu'on est et puis on appelle directement à Nairobi pour qu'on soit présent. J'ai des messages qui viennent de tous ces gens-là veulent de la paix. Qui est ce monsieur qui manipule ici à Kinshasa et ici à Bounia? Mais je suis très content que même ces groupes-là, moi j'ai l'information que tous ces gens-là voudraient bien revenir aller vers la paix. Ils le regrettent amèrement, le fait de n'être pas partis. Ils le regrettent. Et je le sais. Bon, on va peut-être dans une autre occasion, on a vu déjà leur bonne foi parce qu'ils ont exprimé d'aller à Nairobi. On verra ce qui va se passer prochainement.
La situation sécuritaire s'est détériorée ces derniers jours aussi du territoire d'Irumu avec l'activisme des rebelles des ADF. Quelles sont les actions concrètes menées par les gouvernements pour démanteler ces groupes armés?
Non, il y a des actions concrètes. Vous savez, d'abord, il fallait qu'on attende parce qu'il y a eu des nouvelles nominations. Et maintenant que tout le monde est arrivé au niveau du secteur, nous avons donc affecté un général dans cet axe-là, Bogachabi, qui est là avec des éléments, qui est en train de mener des opérations. Et d'ici là, je pense qu'on va aussi continuer avec les opérations sur Komanda, Luna, Komanda, Lolwa. Et donc, nous sommes obligés, nous serons obligés, parce qu'il faut bien des opérations simultanées. Et cela a demandé que tout le monde arrive. Parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements au niveau du secteur et de la région. Voilà.
Le gouverneur des provinces de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de ce journal, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, s'entretenait à Bounia avec Isaac Remoyope. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.